Gloire à Jésus-Christ. Jésus est vivant et nous sommes heureux ce soir de pouvoir nous approcher de lui. Nous l'avons chanté, il est le Rédempteur du monde, il est vivant. Et quand on s'approche de lui, c'est comme quand on arrive dans une pièce où il fait noir et que d'un coup paraît la lumière. Ça se voit, c'est flagrant, on le ressent. C'est évident. Et d'un coup, cela donne un sens à où on se situe, un sens à où on va, un sens à notre vie. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il fait quand on s'approche de lui, quand on le reçoit dans notre cœur. Ce soir, le titre de mon message est « Être sur la même longueur d'onde ». Être sur la même longueur d'onde, c'est une expression. Vous la connaissez certainement tous. On aime être sur la même longueur d'onde que notre famille, que nos amis, que nos collègues de travail. Pourquoi ? Parce que ça signifie se comprendre parfaitement. Voilà la signification de cette expression, être sur la même longueur d'onde. On aime se comprendre, on aime comprendre notre épouse. C'est important dans un couple quand on est sur la même longueur d'onde, quand on est réellement unis, quand on avance ensemble d'un même pas vers un même but. C'est important de réellement se comprendre, de se comprendre parfaitement, de comprendre aussi notre patron, nos collègues de travail. C'est important d'être sur la même longueur d'onde, c'est quelque chose que l'on aime. Mais il y a une relation, au-delà de toutes celles que je viens de citer, il y a une relation qui est beaucoup plus importante que toutes. C'est notre relation avec Dieu. Et avec Dieu, il est important, et beaucoup plus qu'avec tous les autres, d'être sur la même longueur d'onde. Et par la grâce de Dieu, ce soir, c'est possible. Dieu nous donne la possibilité ce soir de non seulement être en relation avec lui, mais d'être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire de le comprendre. De le comprendre. Et ce soir, il y a un message afin que l'on le comprenne et que l'on comprenne ce qu'il a fait pour nous. Alors j'aimerais bien que l'on voit ensemble un passage dans la Bible qui se situe dans le livre de Matthieu au chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12, verset 38. Il est écrit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Amen. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » Ce soir, nous allons nous intéresser à ce passage, nous allons voir ensemble le contexte, nous verrons ensuite en deuxième point le signe auquel le signe qu'ont demandé ces personnes qui sont venues voir Jésus et quel est le signe qu'a voulu leur montrer Jésus. Et nous verrons en troisième point qu'il y a ici bien plus que Jonas. Alors premièrement, le contexte. On voit dans ce passage, premièrement, qu'il y a des... Il est question de scribes et de pharisiens qui viennent voir Jésus. Il faut savoir que les scribes, les pharisiens, c'était des hommes qui étaient d'origine juive. Les scribes, c'était des érudits, des docteurs de la loi. Ils la transcrivaient, ils l'enseignaient, ils l'expliquaient. Et les pharisiens, c'était un parti d'hommes religieux, c'était un parti politique et religieux. Et il y avait un mélange dans ce groupe de personnes comme cela. ils étaient d'une grande influence. Ils étaient d'une grande influence et ils aimaient beaucoup, ils étaient très attachés aux traditions et aux coutumes juives. Voilà qui étaient les scribes et les pharisiens. C'était des personnes qui connaissaient la loi, qui connaissaient une partie de l'Ancien Testament. Ils la connaissaient et ils pouvaient en parler, mais ils ne mettaient pas en pratique ce que disait la loi. Ils la connaissaient, mais ils ne mettaient pas en pratique ce qu'elle disait. Il est important de connaître la loi. Ces hommes se sont intéressés aux choses de Dieu. Ils se sont intéressés aux commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Ces commandements, nous les retrouvons dans l'Ancien Testament. Et ils sont encore actuels. Il est important de les connaître. Aujourd'hui, il y a en France ce dicton « Nul n'est censé ignorer la loi ». Nul n'est censé ignorer la loi. Mais avec Dieu, c'est pareil. Nul n'est censé ignorer la loi. Il nous a donné une loi, il nous a donné des commandements, des prescriptions auxquelles il faut prendre garde, et qu'il nous faut connaître. Ces commandements concernent notre relation avec lui, premièrement, et concernent notre relation avec nos prochains. Et dans ces commandements, il y a par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a par exemple comme autre commandement, tu ne tueras point. Tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Ces commandements, il est important de les connaître, car ils sont saints, ils nous montrent qui est Dieu. Et la Bible nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ces commandements, ils sont parfaits, ils sont saints. Personne ne peut dire que ces commandements-là sont mauvais. Il est important de les réaliser et de se poser la question et de se dire, est-ce que j'y obéis? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, ce soir, oui, moi, j'ai obéi à tous ces commandements. J'en ai cité quelques-uns. Par exemple, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je n'ai jamais menti? Je n'ai jamais volé. Oh oui, mais c'était un petit, c'était juste des bonbons chez le marchand. Oh non, c'était juste un petit mensonge. C'était rien de grave. C'était rien du tout. Il est important de comprendre et de reconnaître, de réaliser, parce que cette loi nous permet de réaliser cela, que l'on est tous pécheurs, que l'on est tous pécheurs et nature de par notre nature profonde. On est pécheurs et à cause de cela, on est séparés de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu et le péché, par la suite, nous asservit, nous avilit et nous détruit. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est important de le réaliser, et oui, de l'admettre. Oui, d'admettre qu'on est séparé de Dieu, si tel est notre cas. D'admettre qu'on n'est pas en relation avec lui, et de le reconnaître. Ces hommes-là ne le reconnaissaient pas. Ils étaient loin de Dieu, ils n'étaient pas en relation avec Dieu, ils étaient pécheurs, ils transgressaient les commandements de Dieu, mais ils ne le reconnaissaient pas. Et Jésus va leur dire... C'est dans un autre passage, dans Matthieu chapitre 15, au verset 3, nous trouvons ce passage. Jésus va parler à ces mêmes personnes de la même manière, il va leur dire « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » On le voit clairement. On voit l'attitude de ces personnes-là. Ils avaient une apparence. C'était des hommes religieux, mais en apparence. Ils n'y avaient pas le cœur. Ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Jésus-Christ va leur dire, leur cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'ils m'honorent. C'est pour cela que Jésus va parler d'eux en disant qu'ils sont une génération mauvaise et adultère qui recherche un signe. génération mauvaise et adultère. Jésus-Christ a parlé d'eux comme une génération mauvaise et adultère. Parce que dans la parole, et on le voit, c'est présent dans l'Ancien Testament, que Dieu a toujours voulu faire une alliance avec son peuple, une alliance que l'on peut comparer avec une alliance faite entre un homme et une femme par les liens du mariage. Voilà cette alliance que Dieu a toujours désirée avec, par exemple, le peuple d'Israël, mais aujourd'hui, avec chacun d'entre nous, Dieu est ce Dieu qui veut faire une alliance. Mais le peuple d'Israël a été adultère. C'est un adultère spirituel. Ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas obéi aux commandements, aux règles que Dieu avait données pour le bonheur de ce peuple. Oui, on peut dire, ces hommes-là n'étaient vraiment pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Ils n'étaient vraiment pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Ils sont venus à Jésus avec de mauvais sentiments. Ils ne se sont pas venus sincèrement le cœur à la recherche de Jésus. Ils sont venus vers Jésus pour le provoquer, pour le mettre au défi. Ils n'étaient vraiment pas sur la même longueur d'onde. Il est important pour chacun d'entre nous ce soir de réaliser ce que Dieu veut. Oui, malgré le fait qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, Jésus-Christ va les orienter. Il va leur faire grâce, il va leur donner une possibilité d'être sauvés et de recevoir la paix, d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir être enfin en relation avec lui. Il va les orienter vers le signe auquel il nous faut prendre garde, auquel il nous faut être attentif encore aujourd'hui. Ces personnes sont venues vers Jésus en lui disant « Nous voudrions te voir faire un signe ». Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes comme cela viennent vers Dieu, viennent parfois à l'église et recherchent. Il y en a qui recherchent sincèrement. Mais il y a des personnes qui se disent « Si je pouvais seulement voir un signe, si je pouvais seulement voir un miracle, alors je croirais en Dieu. Alors je croirais dans tout ce que dit la Bible. Alors je m'engagerais. » Il y a des personnes comme cela qui attendent de voir un miracle avant de croire. Mais avec Dieu, il est important de réaliser qu'il nous demande de croire. On est dans un monde très cartésien aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent comprendre, veulent voir. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme cela. Il est important de croire. Il y a ce verset dans la Bible, « Crois et tu verras. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras Dieu agir dans ta vie. Crois et tu verras Dieu se manifester puissamment dans ta vie, dans ton cœur, dans tes besoins, dans ta famille. Crois et tu verras. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il est important de ne pas inverser cela. Ce soir, de faire les choses dans l'ordre, de croire ce que Dieu veut que nous croyons. Il y a un signe auquel il nous faut être attentif. Et ce signe, Jésus les a conduits à le réaliser par le prophète Jonas. Il leur a dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà, il leur a dit, il ne sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Voilà le signe vers lequel il les a orientés. Il est très simple de comprendre l'histoire de Jonas. On retrouve ce livre dans l'Ancien Testament, il comporte 4 chapitres. Et l'histoire de Jonas est très simple à comprendre. Jonas était un prophète, un homme de Dieu, qui recevait des messages de la part de Dieu afin de les annoncer à ceux qui en ont besoin. Et un jour, Dieu lui a parlé afin d'aller parler au peuple des habitants de Ninive. Et seulement Jonas n'a pas obéi. Il est allé à l'opposé. Il n'a pas voulu apporter le message que Dieu avait prévu pour ce peuple. Il est allé à l'opposé. Il a voulu désobéir à Dieu. Il est monté sur un bateau et alors qu'il naviguait, tout d'un coup s'est levée une tempête. Et à ce moment-là, les marins, le commandant, l'équipage ont commencé à s'inquiéter, à s'inquiéter pour leur vie. Ils voyaient que la tempête ne s'arrangeait pas, et alors ils se sont mis à invoquer leur Dieu, à invoquer les dieux qu'ils avaient, peut-être à s'appuyer sur des idoles de bois, sur des gris-gris qu'ils avaient, à faire des prières. Et à un moment donné, ils ont retrouvé le commandant de bord, l'équipage, ils ont retrouvé Jonas au fond du bateau. Et ils l'ont réveillé en lui disant, « Mais appelle aussi ton Dieu et invoque-le, afin qu'il puisse répondre et nous secourir. » Et par la suite, ils ont tiré au sort pour savoir qui était celui qui attirait ce malheur. Alors c'était une pratique à l'époque. Aujourd'hui, on ne pratique plus les mêmes choses pour savoir qui, quand il y a un malheur, qui c'est qui est le fautif. Mais c'est dans la parole de Dieu et c'est la vérité. À ce moment-là, le sort est tombé sur Jonas. Et Jonas a avoué son péché. Jonas a avoué que c'était à cause de lui, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et il leur a dit, pour que cela soit réglé, il faut que vous me jetiez par-dessus bord. C'est ce qu'ont fait ces hommes. Ils ont jeté Jonas par-dessus bord. Cela peut vous paraître complètement fou, mais cela a solutionné le problème. La mer s'est calmée. La tempête s'est arrêtée instantanément. Et à ce moment-là, Jonas a été avalé par un grand poisson. Il a été pendant, on l'a lu ensemble, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et par la suite, il a été recraché sur le bord de la mer. Il y a là une image et une similitude avec l'œuvre de Jésus, avec ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et il est important de le réaliser. Cela peut paraître, et je le redis, complètement fou, mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour que nous soyons sauvés. Et les choses qui paraissent folles aujourd'hui dans ce monde, eh bien parfois ne sont pas complètement folles, parce que cela est écrit, et cela est la vérité. Et il est dit dans la Bible, dans Marc chapitre 9, verset 31, « Car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Oui, voilà le signe auquel Dieu veut que nous soyons au clair. Voilà le message qu'il veut nous faire parvenir encore ce soir, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde, afin que nous le comprenions parfaitement. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est venu pour donner sa vie, il l'a annoncé avant de le faire à ses disciples, il est venu et il a volontairement donné sa vie. Lui, Jésus-Christ, lui qui était saint, sans péché. Il y a ce verset qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il y a ce verset derrière moi, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Et ce soir, réalisez l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a payé le prix de notre condamnation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, Jésus-Christ à la croix a payé le prix de mes péchés. Il a payé le prix de ma liberté. Et ce soir, il est important de placer notre foi en lui, afin d'être libéré, afin d'être complètement lavé, purifié, afin d'être en relation avec Dieu et d'être sur la même longueur d'onde. Il est important de réaliser qu'il nous faut croire à ce message avant de voir. Crois et tu verras. Et pour terminer, ce message, ces versets que nous avons lus terminent sur ces mots. Il y a ici plus que Jonas. Ce dernier verset nous dit « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. » Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Par la suite, après que Jonas fut rejeté par ce grand poisson, il est allé très rapidement annoncer le message que Dieu voulait aux Ninivites. Il leur annonçait un message simple. Repentez-vous, obéissez au commandement de Dieu. Et ce passage nous dit que les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas. Il y a eu un espoir, une délivrance pour les Ninivites. Il y a eu une restauration. Et ce soir, dans ta situation, il y a un espoir, il y a une solution. Dieu est celui qui nous appelle, premièrement, à la repentance. Et quand on s'approche de lui, c'est la première marche sur laquelle il nous faut monter. Il nous faut nous repentir sincèrement, profondément, avoir ce vif dégoût du péché, réaliser que c'est par nos péchés que Jésus-Christ a donné sa vie. C'est à cause de cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Et avoir cette ferme volonté de ne plus recommencer, de ne plus pécher, de se tourner, de faire un demi-tour complet, d'arrêter de marcher sur une voie de péché et de se tourner vers une voie de sainteté, vers le chemin qui conduit à Dieu. Repentez-vous. Voilà le message qu'a annoncé Jonas. Et dans ce dernier verset, il est important de réaliser, et il y a trois mots importants, il y a ce mot « jugement ». Il est important de réaliser qu'il y aura un jugement un jour, et que nous passerons tous, un par un, devant Dieu. Que nous passerons pas en groupe avec nos amis, avec notre famille qui a prié pour nous, mais que nous passerons tous, un par un, devant Dieu, et que nous devrons lui rendre des comptes, et que on n'aura pas de carte bleue, qu'on ne pourra pas faire quoi que ce soit, qu'on sera à nu devant lui. Il est important de réaliser qu'il y aura un jugement. Tout à l'heure, on a parlé des commandements de Dieu, de la justice de Dieu. On a parlé du salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y aura un jugement. Dieu est un juste juge. Il est un juste juge. Il est parfait et il ne peut laisser entrer le mal dans le royaume de Dieu. Il ne peut laisser entrer et cautionner le péché. C'est pourquoi il y aura un jugement. Et il est important d'avoir, non pas de nous justifier de par nous-mêmes, de par nos bonnes œuvres, de par tout ce que l'on aurait pu faire, mais il est important d'avoir à ce moment-là un bon avocat. Et Jésus-Christ est cet avocat. Jésus-Christ est cet avocat, le seul qui puisse plaider notre cause, le seul qui puisse répondre à la justice divine, le seul qui puisse nous permettre d'être justifiés aux yeux de Dieu, grâce à son œuvre à la croix pour nous. Quand on place notre foi en lui, on est justifié aux yeux de Dieu, on est pardonné et on a pour fin la vie éternelle. On n'est pas condamné. Il y a ce verset dans la Bible, et je terminerai là-dessus, ce verset qui nous dit dans Jean 3,16, « car Dieu a tant aimé le monde, et Dieu vous a aimé, chacun d'entre nous ici, chacun d'entre vous, Dieu vous a aimé, vous a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le but de Dieu pour chacun d'entre nous. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la faveur qu'il veut nous faire. Mais la grâce, il nous faut l'accepter. Il nous faut la recevoir. À l'époque, et ça existe peut-être encore, il y avait certains présidents qui, lors de fêtes nationales, accordaient la grâce à certains prisonniers, à des condamnés, à des personnes qui n'étaient pas en droit de sortir de prison. Il y a eu un jour un homme aux États-Unis à qui le président a donné cette possibilité d'être gracié. Il avait choisi un homme, mais cette personne qui recevait cette possibilité devait l'accepter. Et cet homme ne l'a pas accepté. Cet homme n'a pas accepté la grâce présidentielle, il n'est pas sorti de prison. Il a voulu purger sa peine. Mais il est important de réaliser ce soir qu'il nous faut accepter la grâce de Jésus-Christ. Ce soir, ne vous privez pas, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Tu as prouvé ton amour envers chacun d'entre nous, nous l'avons entendu dans ce message. Ce n'est pas qu'au travers de paroles, mais c'est par un acte, par ton œuvre à la croix. Tu es descendu de ton ciel de gloire et tu as donné ta vie. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, car encore ce soir, tu es celui qui nous tend la main, qui nous donne la possibilité d'être pardonné, lavé, purifié, complètement restauré, avoir pour fin la vie éternelle, par grâce. Ô Éternel, nous te louons de tout notre cœur, et je te prie que dans ces moments, personne ne se prive de ta grâce, personne ne se prive de ton amour, de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.